Donc, il y a pour moi quatre grands objectifs dans ce séminaire qui me paraissaient essentiels à pointer. Donc, déjà, pour moi, il y a la notion de mieux comprendre les multiples fonctions du conte merveilleux. Parce que souvent, c'est un conte qu'on connaît mal. Il a tellement été aujourd'hui transformé, repris, manipulé, etc., qu'on en a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout. Et on va essayer de redéfinir peut-être quelques clés pour qu'on soit vraiment dans un cadre de compréhension, d'intercompréhension, hein, par rapport à ça. Le deuxième point, c'est de mieux déterminer la place des genres dans ces contes-là. Parce que souvent, on ne connaît que quelques contes du conte merveilleux. Et on a l'impression que souvent, les contes qui ont le plus émergé dans les temps qui viennent de passer, c'est des contes où il y avait des héros masculins. Mais il n'y a pas que des contes avec des héros masculins. Il y a aussi beaucoup de contes avec des héroïnes féminines, voire des contes qui sont complètement gérés par le féminin. Faut-il aller les chercher, les comprendre et les voir? Donc, ça aussi. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment un espace complexe qu'on essayera de déterminer. On a un peu de temps quand même. On a six séances plus des rencontres. Hein, voilà. On va essayer de déterminer aussi les manipulations, justement. C'est-à-dire comment ces contes-là ont été manipulés. Parce que c'est aussi très significatif. Pourquoi on manipule? Pour des raisons positives, mais aussi pour des raisons négatives. Donc, intéressant de voir là-dedans où se trouvent les grandes manipulations qu'on a pu rencontrer. Hein. Voilà. Et puis, le dernier point qui me paraît essentiel, c'est comment ces contes-là peuvent être des outils intéressants pour aborder ce problème du masculin-féminin au XXIe siècle. C'est celui-là qui me paraît le plus essentiel. Moi, je suis à peu près convaincu par expérience que c'est un des récits essentiels du XXIe siècle. Faut-il le démontrer? Et donc, on va s'y atteler tout au long de ces éléments-là, toute cette période-là. Voilà. Voilà, donc oui, la crainte qu'on avait dans l'élaboration, c'était ça, c'est-à-dire qu'on soit trop dans le pulsionnel et pas assez dans la réflexion, mais je pense qu'on est tous assez chasse pour le comprendre et que si on veut faire de la recherche, on a besoin de poser les choses tranquillement. Hein. Voilà. Donc, j'avais posé aussi le fait que dans ce que je proposais, de faire quelques définitions, les définitions en tant que telles. Déjà, elles me paraissent importantes, c'est-à-dire de limiter le champ de recherche et de travail. Hein, voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle le conte merveilleux? Je ne vais pas vous faire un cours sur le conte merveilleux. Il y a plein de choses sur le site que vous pouvez aller voir. Simplement pour dire que là sur ces éléments-là, on va se limiter au champ de l'Arne Thompson, donc au champ qui est limité par les folkloristes depuis 1910. Hein, c'est-à-dire qu'on va garder les contes types comme référence en tous les cas. Parce que sinon, on va voir déjà que sur la Belle Endormie, le conte type, il n'est pas très parlant. On va en parler, justement. Hein? Mais quelque part, donc, on sera sur des ATU, comme on dit dans le jargon. Hein? Voilà. Donc, comme type de référence, systématiquement. Hein? Voilà. Donc, la notion de genre, après, ben, c'est évident qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup de la notion de genre. Ça fait. Sur le plan universitaire, maintenant, c'est des secteurs qui sont quasiment pleins. Et d'une, sur le genre masculin-féminin, mais aussi sur les tendances sexuelles, homosexuelles et voilà, hein, donc les LGBT, etc. Hein, je vais pas, là, pareil, on aura le temps d'y revenir aussi, parce que ça me paraît intéressant de positionner le fait est-ce que les contes prennent en charge cet endroit-là, hein. On verra que dans notre culture, peut-être pas trop, dans certaines cultures, comme chez les Inuits, oui, c'est pris en charge. Donc, pourquoi chez eux, pourquoi pas chez nous? On essaiera aussi de voir un petit peu dans des espaces de cette ordre-là ce qu'on peut pointer. Voilà. Donc, cette attention grandissante qu'il y a sur les genres, elle est très significative aussi sur le plan anthropologique, hein, d'une rupture aussi sur des millénaires de patriarcat extrêmement bien blindés, où c'était très, très pointé, où la religion avait pris en plus une part très forte. Aussi de cristallisation de cet espace-là. Et puis là, on est dans un travail de révolution, on va dire, sociétale, où le féminin prend une place extrêmement importante, mais avec les conséquences que ça peut avoir aussi sur le masculin, hein, qui peut être aussi un endroit de remise en cause d'une identité millénaire, ou une façon de se construire une identité millénaire. Donc ça me paraissait important dans ce séminaire qu'on n'oublie pas non plus les deux formes d'initiation. Féminine et masculine, parce que ça me paraît malheureusement Les présences ne seront pas très parlantes, puisque je crois qu'on est à 70 personnes féminines pour 8 personnes masculines. Donc la parité n'est absolument pas atteinte. Voilà. Mais ça me paraît important que malgré tout, cet endroit du masculin soit aussi pris en charge. Donc c'est pour ça que je me suis glissé avec un Jean de l'Ours au milieu, qui est vraiment un camp d'initiation masculine par excellence, hein, qui me paraissait intéressant aussi d'aller aborder en tant que tel. Voilà. Que dire de plus? Moi, après, il y a vraiment cette volonté de cumuler du savoir, là, dans tous les cas, de vos réactions sont aussi importantes que les miennes. Hein. Moi, c'est ça qui me paraît important, c'est qu'on soit aussi sur un dialogue et sur des regards. Je crois que nous, avec Catherine, on sera surtout là pour essayer de mettre un chemin sur lequel chacun va pouvoir s'installer et poser des choses. Hein. Mais si c'est un séminaire, il faut qu'on puisse tout travailler ensemble, dans tous les cas. Sinon, ce n'est pas une grande conférence pendant six séances. Hein. C'est ça qui me paraît important à poser en tant que thème. Voilà. Donc, le thème du jour, la belle endormie. Je préfère ce thème-là que la belle au bois dormant, hein, pour différentes raisons. Alors, cette belle endormie, déjà, pour moi, elle est vraiment intéressante à travailler parce que c'est un thème qui est là depuis l'Antiquité. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça vient là. On a déjà des belles endormies, on en a partout. Il y a même, je vous conseille d'ailleurs, on vous mettra tout ça sur les bibliothèques. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait une magnifique thèse sur les mortes vivantes, hein, voilà, en reprenant systématiquement donc tout ce qu'il a pu trouver dans les romans de cette belle endormie. Hein. Vous en prie. Donc c'est vraiment un thème qui est très 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 ancien, qu'on va retrouver dans une quantité de romans et de mythes, etc. Donc déjà, moi, il y a une première question, cette notion de la vulnérabilité, le côté vulnérable d'une personne qui est endormie, hein, qui est en jeu. À côté de ça, il y a la notion de ce qu'on représente aussi, la mort, on paraît être mort. Et c'est vrai que quand on voit au Moyen Âge le nombre de récits qu'il y a sur la peur d'être enterré vivant, il y en a des quantités. Beaucoup de belles endormies sont endormies donc pour éviter un mariage forcé, pour éviter un mariage qui n'est pas celui qu'elle souhaitait en tous les cas. Il suffit de regarder Shakespeare et vous allez déjà trouver un premier cas qui est tout à fait intéressant. Hein, voilà. Donc je dirais que le premier élément, ça va être peut-être ça, c'est-à-dire de réfléchir un petit peu sur l'endormissement. Hein. On s'aperçoit que beaucoup de récits parlent aussi d'endormissement en tant qu'élément de mise à l'écart. Et je pense que ça, c'est un thème qu'on aura sûrement travaillé dans La Belle Endormie, parce que quelque part, c'est aussi une mise à l'écart au moment, hein, où elle arrive donc dans un état de possibles rencontres en tant que telles. Hein. Donc, cette notion de la relation avec le féminin sur une tranche d'âge, hein, ou quelque part, mais sur la procréation devient possible. Hein. Donc, il y a à réfléchir d'ailleurs à tout ce qui était la valeur de la lignée à l'époque. Hein. Voilà. Ce qui n'est peut-être plus aujourd'hui le cas, mais pendant très longtemps, il faut penser que les héritages passaient sur des lignées, passaient sur des. Donc, il y avait tout un élément qui dépasse le côté affect. Mais qui est aussi un côté anthropologique et un côté économique, on veut dire, d'une époque. Hein. Voilà. Donc, ça, on pourra l'éviter à un moment donné. Voilà. Ensuite, il y a le côté de cette relation au masculin, voilà. Qui pour moi nous parle beaucoup de quelque chose qui peut être essentiel aujourd'hui, on va essayer de le déterminer aussi, c'est le conflit pulsion-raison. Je pense qu'on est dans une société où on relâche énormément les choses sur la pulsion. Voilà, on a énormément de médias, on a énormément d'éléments qui sollicitent Vénus plutôt qu'amour. Hein. On va le voir. Voilà. Et donc, cette notion, c'est comment, quelque part, ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent de cet état-là? Hein. Et je pense que c'est très intéressant, à un moment donné, de relire les textes anciens, comme Perceforest. Merci d'être là pour nous le raconter parce qu'il est essentiel. Mais aussi des textes pour faire joie et faire plaisir, hein, qui sont des textes catalans, provençaux, voilà, où il y a carrément des discours sur le non-consentement. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça. Il y a vraiment un endroit du raisonnement Il y a un endroit vraiment où la jeune fille, elle défend aussi son côté. Il y a vraiment, et on s'aperçoit que c'est aussi une volonté dans l'histoire de la relation au fin amour, hein, voilà, à l'amour courtois. Voilà. Mais quand on fait le point de cet amour courtois, qu'est-ce qu'il essaye de mettre en cause? C'est en fin de compte un viol quasi légalisé pendant toute une période. Les gens qui violaient à l'époque n'avaient aucune punition. Donc il y a déjà cette notion de maître de la raison, mais qui a appliqué vraiment l'amour courtois? Question à se poser. On s'aperçoit que ce sont certaines classes très particulières, et encore, voilà, peut-être plus dans la tête que dans la pratique, hein, en tant que tel, plus dans la littérature que dans la pratique. Hein, voilà. En tous les cas, moi, ce qui me paraît intéressant de poser comme question déjà sur ces textes anciens, c'est fait pour qui? Est-ce qu'on peut mettre ça à la portée des enfants? Non, ce n'est pas fait pour ça. Donc, on reviendra sur ce fameux discours, hein, c'est qu'est-ce qu'on veut interdire dans les écoles? Hein, parce que quelque part, bien sûr que c'est des textes, ils ne sont pas, pour moi, abordables avant 12 ans, 13 ans. Voilà. Parce que, par contre, à cet âge-là, ça devient des textes de réflexion sur l'acte. Ça peut revenir des textes de médiation, de discussion. Et là, il faut reposer la question de la tradition de transmission. Dans les veillées, moi j'ai eu la chance de collecter quelques veillées, il n'y a pas que la parole du conteur, il y a la parole après le conteur. Il y a les échanges, hein, il y a les questions. Ouais. Donc il y a la parole dans la famille, parce que ce n'est pas l'enfant qui est seul face à un conteur, c'est toute la famille qui est en présence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, on a peut-être à réfléchir aussi qui accompagne aujourd'hui quelqu'un qui reçoit un texte comme ça pour pouvoir en discuter. Donc là aussi, hein, on délègue beaucoup aujourd'hui, hein, dans la relation, hein, à ce type de connaissances. Hein. Voilà. Après, moi, je pense qu'il va y avoir toutes les versions de Basile, par exemple, ça nous en parlera, hein, où là, on est vraiment dans l'axe de violence brute, nette. Il n'y a vraiment aucune médiation. On passe de l'amour courtois à vraiment quelque chose qui est la brutalité en tant que telle. Et puis Perrault, il arrive là, sûrement inspiré de tous ces éléments-là. Hein. Voilà, parce que Perrault n'arrive pas non plus avec rien. Mais Perrault, il faut penser qu'il est dans un état particulier de société. 17e, la cour, avec tout ce que ça comporte. Hein, il faudra pas oublier qu'on est aussi dans la réforme. D'accord? Et que la Vierge Marie, en relation à la Belle Endormie, c'est pas rien non plus. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont être derrière. C'est-à-dire que la chrétienté, on le viendra à toujours chercher à récupérer ces éléments de récit en permanence pour des raisons d'évangélisation, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, mais quelque part, on passe par ce qu'on appelle les exemplats, hein, c'est-à-dire vraiment des stocks de contes merveilleux qui sont christianisés pour essayer de les transformer. Hein. Donc, on le reverra avec surtout la Belle aux mains coupées la prochaine fois, qui est un exemple type de cette récupération. Et on va récupérer quoi la plupart du temps? Mais on va récupérer les moments les plus émotionnels, l'endroit où l'émotion est la plus forte. Voilà. Donc tout ça, ça me paraît pour Perrault intéressant, parce que le discours de Perrault, il faut le relire, il est extrêmement intéressant. Et puis intéressant du fait qu'il n'y a jamais de baiser volé dans Perrault. Si vous relisez la version, il y a une seule version. Le baiser est volé, c'est la version dont s'inspirent en général tous les films de Walt Disney. Hein, c'est celle de Grimm. Il n'y a que là qui est vraiment un baiser volé en tant que tel, hein, après dans les versions récentes. Voilà. Donc, sinon, après, il n'y a pas de baiser volé. Hein. Donc là, une fois de plus, on entend souvent dans les discours, mais relisez Perrault, vous allez voir, c'est impossible, c'est pas possible. Non, non, Perrault ne fait que il y a juste le fait qu'il arrive. Et d'ailleurs, il inverse le propos, on va le voir. Hein. Vraiment, on est vraiment dans un espace où, là, c'est la jeune fille qui prend le pouvoir chez Perrault. Voilà. C'est elle qui mène les choses. Hein. Ce n'est pas le jeune homme. Donc là aussi, on sent très bien qu'il y a cette volonté aussi d'inverser des choses. Il faut penser que Madame d'Aulnoy et toutes les grandes dames qui écrivaient à cette époque-là, on est déjà dans les premiers discours féministes de l'époque. Hein. Voilà, on lisait Nadine Jasmin. Sur la naissance du féminisme, vous aurez vraiment toutes les clés de cet ordre-là en tant que tel. On vous donnera, je vous le répète, mais vous inquiétez pas, on vous fera une bible très précise de tout ça. Voilà. Donc, motif des mille et une nuits aussi, hein, vous allez retrouver ce conte-là jusque dans les mille et une nuits, vous allez le retrouver absolument partout. Donc, il y a vraiment, c'est un conte qui est intéressant dans le sens où il a été aussi très diffusé. On voit que c'est un motif qui est vraiment diffusé partout. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce qui se joue dans un conte qui est aussi diffusé? Pourquoi il est aussi diffusé? Quelle est la question qu'il nous pose à un moment donné pour qu'il persiste sur des millénaires, voilà, sans que quelque part il y ait d'effacement et que le questionnement soit toujours le même? Donc, pour moi, si le questionnement sur le plan anthropologique est toujours le même, c'est que la question n'est pas résolue. D'accord? Mais elle est là. Donc, pour résoudre une question, ça sera un peu l'objectif, c'est de bien la comprendre, la question. Bien comprendre ce qui nous questionne, hein, ce qui est en question dans ce compte-là. Voilà. Donc, ma foi, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait parler de tout ce qui... mais on va petit à petit avancer, hein, sur le plan avec Catherine, qui nous donnera des clés un peu plus cadrées sur chacune de ces versions, hein, en tant que telle. Voilà. Donc, en gros, pour moi, il y a les questions littéraires qui sont en jeu, il y a les questions sociétales, il y a les questions psychologiques, il y a des questions du genre, bien sûr, puisqu'on est dans ce cadre-là, hein, donc des initiations. Pour moi, tout conte merveilleux est un conte initiatique par définition. C'est-à-dire que, alors après, c'est qu'est-ce qu'on appelle initiation? Voilà. Ce n'est pas une initiation ritualisée comme dans certaines sociétés traditionnelles, hein, où l'enfant est mis à l'épreuve corporellement dans l'initiation. Mais toute initiation, c'est une mort symbolique. C'est la mort d'un état et la renaissance dans un autre état. Et les contes nous racontent ça tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? On ne pourra plus jamais être comme avant, une fois qu'on a été initié, hein, par définition. Donc, tous ces contes-là, je pense qu'il faut les prendre dans ce sens-là et chercher l'état qui change. Où est la transition, si on veut les comprendre? Qu'est-ce qui transite d'un état à l'autre? Quelles sont les épreuves qui vont nous faire passer d'un état à l'autre? Ensuite, ces récits, je pense que pour les comprendre, il faut changer d'attitude, hein, c'est-à-dire que il ne faut plus être dans France Info. Il ne faut plus être dans le réel. D'accord? Ils ne nous parlent pas avec de l'information, ces récits-là. Ils nous parlent avec du symbole. Et le symbole, c'est un outil dynamique. Ce n'est pas un outil mort qui ne donne qu'un sens. La définition du symbole, pour moi, c'est un outil qui traite l'ambivalence. Il n'y a pas de symbole sans ambivalence. D'accord? Donc, il y a un côté positif et un côté négatif qui se déploie systématiquement dans le symbole. Donc, la forêt, on peut s'y réfugier, mais on peut s'y perdre. L'eau, on en a besoin, mais elle peut nous noyer. Tous les éléments symboliques vont partir dans ces deux phases-là, systématiquement. Donc, pour moi, le conte merveilleux, comme il traite les choses de façon symbolique, ben, il nous oblige à travailler les propres ambivalences qui nous travaille intérieurement. Ce n'est pas un conte qui traite le social. Extrêmement important à l'entendre, parce que ça veut dire aujourd'hui, malheureusement, on lit ces contes comme s'ils étaient en train de nous dicter quelque chose de l'ordre du social. Non. Dans la définition, on peut dire que c'est l'inverse du... C'est pas l'inverse, c'est le même système que le mythe. Mais le mythe va nous permettre de penser tout ce qui est inatteignable à l'extérieur de nous, hein, et le conte merveilleux nous permet de penser tout ce qui est inatteignable à l'intérieur de nous. Tous nos endroits difficiles en tant que tels, hein, voilà, inatteignables, peut-être qu'on peut y aller aujourd'hui avec la psychanalyse, hein, mais pendant très longtemps, ça n'existait pas. Hein, donc, je crois que les anciens avaient très bien compris qu'il y avait des formes d'approche, voilà, et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant pour les psychanalystes d'y aller aussi. C'est qu'il y a des clés aussi de cet ordre-là, hein, en tant que tel. Donc, en tous les cas, c'est des récits qu'on ne peut pas aborder uniquement en tant que miroir du social. Ce n'est pas un miroir, c'est une résonance avec le social qu'il faut traiter. Si on les prend comme ça, ils deviennent riches. Si on les prend qu'au niveau du social, pour moi, c'est anecdotique et c'est dangereux même. C'est là où ils deviennent dangereux. Gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'éduque plus les enfants à une lecture symbolique du monde. Ah, l'info, ça, ils l'ont, hein. Il n'y a pas de souci. L'info, on en est blindé toute la journée. On est à 80% d'éléments qu'on reçoit, c'est des informations. Voilà. Mais pour moi, le côté symbolique, c'est vraiment aborder la complexité des choses en tant que telles. On ne peut pas. Voilà. Ça, c'est Edgar Morin. Hein. Si vous allez relire son travail, il a passé sa vie à travailler sur la complexité. Et il nous dit bien que un des problèmes aujourd'hui, c'est de refuser la complexité. Hein. Ça, c'est aussi un gros, gros problème. Donc après, je dirais que le dernier point qu'il faudra peut-être qu'on aborde, c'est comment ces récits glissent du côté de ce qu'on appelle la littérature jeunesse. Voilà. Et comment, voilà, ces récits qui sont normalement faits pour des 12, 14 ans, voire plus, hein, jusqu'à la fin de la vie, sont aujourd'hui le plus diffusés pour des gamins qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. C'est des récits qui ne sont pas faits pour eux, tout simplement. Hein.
Alors attends, comment on fait pour qu'on les entende pour ceux qui sont autour?
Normalement, il faudrait, mais comme il y a la vision, est-ce que c'est possible d'intervenir au moment d'un temps d'échange? Parce que sinon, on va sans cesse déplacer l'ordinateur, c'est pas évident, noter vos questions et les interventions. Juste après, merci.
Je pense qu'on n'est pas d'accord, mais on sera sûrement d'accord au bout. Moi, j'essaye de faire des schémas, pour l'instant. Hein. Voilà. C'est beaucoup plus complexe que ce que je pose là. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, c'est évident qu'un enfant qui est en âge de. Il va entendre une chose qui n'est pas celle que l'adulte peut entendre. Il n'a pas les outils qu'il aura à 12 ans pour pouvoir aller dans la profondeur du récit. Lui, il a peut-être besoin de l'anecdote, parce que c'est des outils aussi qui vont permettre de structurer les choses, hein, de créer un contenant solide. Voilà. Mais bon, on y reviendra parce que je pense que c'est des sujets intéressants. Mais en tous les cas, pour moi, ce sont des récits qui, tels qu'ils sont écrits, ne sont pas construits pour ce type de. Dans la littérature jeunesse, après, oui, il y a des adaptations, il y a des éléments qui peuvent être tout à fait intéressants. Hein. C'est-à-dire qu'un conteur dans une veillée n'allait pas raconter la même version s'il y avait des enfants, s'il y avait que des ados, s'il y avait que des adultes. Il s'adaptait à un auditoire. C'est ça aussi qui est important. OK. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment autant de pistes pour moi qui sont à travailler en tant que telles. Hein, voilà. Et puis après, pour moi, il y a la notion de réception individuelle et réception collective. C'est-à-dire que quelque part, je pense que le conte nous met en résonance aussi par rapport à nos propres parcours. Il y a des images qui, quelque part, peuvent résonner pour certains et qui ne résonneront pas pour d'autres. Ce n'est pas la panacée qui permet de toucher immédiatement tout le monde. Ce n'est pas pour rien que certains conteurs choisissent de raconter tel conte ou pas l'autre. Parce que là aussi, ils ont du travail à faire avec lui. Comment, quelque part, un conte nous travaille sans qu'on puisse jamais le raconter? Ça, les conteurs le savent bien. Donc, ça devient aussi des espaces de laboratoire intérieur qui ne sont pas obligatoirement transmissible immédiatement. Donc, ce compte-là, en tous les cas, il y a une autre chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a quasiment pas de version traditionnelle du compte. Ce sont que des versions littéraires. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il fait dans la classification. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que toutes les versions qu'on connaît, elles sont inspirées, en tous les cas, des versions anciennes. Mais on n'a jusqu'à présent pas trouvé de réseau de diffusion du ATU 410 dans le monde. C'est vraiment que des versions littéraires qui circulent. Il y a toujours une trace écrite. Voilà. Alors qu'on verra que pour le 706, par contre, trace écrite, il n'y en a pas beaucoup, mais alors des traces orales, qu'est-ce qu'il y en a, quoi. Donc on est vraiment aussi sur des systèmes qui sont intéressants à poser. C'est-à-dire, est-ce que la problématique était quelque chose qui pouvait se parler dans le monde rural, comme certains autres thèmes? Ou est-ce que c'était plutôt une problématique qui se traitait dans d'autres types de monde? Donc on va tourner l'ordinateur et on va pouvoir. Voilà, moi je voulais mettre ça comme cadre au départ pour qu'on puisse démarrer sur des pistes un peu communes de travail. Hein. C'est des pistes. Hein. Moi, une fois de plus, hein, je vous donne mon élément, mais je ne suis pas. Voilà. Donc, on va essayer de mettre le. Voilà.
Je souhaite intervenir par rapport aux propos de Marc. N'hésitez pas, moi je vais voir si.
Alors parle bien fort parce que oui. Le micro ouais. Est ici.
Les comptes avant un certain âge, mon professeur en pédopsychiatrie disait tout son raconte des histoires terribles aux enfants, mais blancs.
Oui. J'entends Pierre Laforgue, là, c'est ça.
Moi, quand j'étais enfant, justement, on racontait, il n'y a pas plus terrible que ça, c'était Barbe Bleue. Là. Et je crois que j'en redemande. Voilà, parce que la découverte de Freud, c'est que l'enfant très tôt se pose des grandes questions des origines de la sexualité, y compris de la violence sexuelle, de l'amour. Et finalement, les contes, enfin, de mon point de vue, c'est un peu, c'est des formes théoriques métaphorisées. Enfin, il y a justement mes amis, qui est fiel avec son mari, hein. Les théories sont des contes, on peut
en oui. Voilà. Oui, mais moi j'entends ce que vous dites. Hein. Mais de toute façon, une fois de plus, c'est une autre façon d'envisager le conte. C'est qu'il y a ce qu'on ne pourra pas raconter les contes de la même façon et ils n'y entendront pas non plus la même chose. Ce n'est pas la même charge. J'ai mentionné qu'il va y avoir derrière. Moi, je sais que pour les personnes qui ont dit temps merveilleux, je leur dis qu'on ne pas non plus assainir votre
compte. En tant que tel et que vous êtes sur votre propre décharge, ne racontez pas face aux enfants.
Les contes tirent les décharges.
Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi le monde n'est pas psychanalyste,
il y a aussi un espace dans lequel il faut être très vigilant.
Donc après, les parents qui racontaient ça aux enfants, ils avaient souvent un affect extrêmement important aussi, qui faisait qu'il n'y
avait pas de charge dans la relation. C'est ça.
Voilà. Si j'étais une enfant, j'ai eu ces mêmes peurs que toi.
Tout à fait.
Pour moi, je les joue.
Ah ouais. Et je pense que tout ça, c'est des éléments qu'il faudra voir. C'est-à-dire qu'une fois, dans ce que j'appelle la littérature jeunesse aujourd'hui, il y a les deux côtés. Il y en a un côté qui, pour moi, est extrêmement positif, puis il y a des côtés qui peuvent être hyper dangereux. Moi, j'ai vu des petits chapeaux en rouge. Mon Dieu, c'était vraiment c'était vraiment le viol raconté. Quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Et là, il faut faire attention après où comment ça peut se jouer en tant que tel. Voilà, il y a les deux côtés qui me paraissent importants à bien concentrer. Hein. Bien sûr. Ah, ouais. Voilà. Mais je pense que c'est une question qu'il faudra bien avoir en tête, parce que là, on est vraiment sur deux modes, deux objectifs. Hein, voilà. Oui, moi, je suis tout à fait convaincu que les enfants ont besoin d'avoir peur pour apprendre à gérer leur peur. Hein. Ça, c'est... S'ils ne sont pas passés par là, c'est terrible pour eux quand ils les rencontrent. Quoi. Bien sûr. Ouais. Mais il y a vraiment des précautions à prendre. On ne peut pas le faire n'importe comment non plus. Ouais. Dans les classes, on le voit bien. Hein, quand on raconte la première fois, on a les têtes derrière les bureaux, on devient que ça va mieux et puis même plus peur. C'est pareil. Mais là aussi, c'est une notion de répétition. Voilà. Tout ça se pose des questions de comment on diffuse le conte aujourd'hui. Parce que souvent, on va au spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? On voit le conte une fois. Voilà. Alors que logiquement, le conte, il faisait son travail dans la répétition et pas uniquement dans la perception unique. Il y avait vraiment ce travail de répétition régulier. Voilà. C'est-à-dire, le conteur racontait peut-être une seule fois, mais les parents prenaient le relais derrière. Ils accompagnaient l'intégration. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Je disais au début que les contes merveilleux, on est dans le registre du symbolique. Il fallait évacuer le domaine social parce que ce n'était pas ça du tout. Et à la fin, quand tu me regardes plus précisément sur la belle endormie, il fait que la caractéristique nouvelle, c'est que justement, on est entré dans le même. Du littéraire, du récit, avec des noms, des individus qui font un récit. Alors, est-ce que justement, on ne parle pas justement passé du domaine du symbolique au domaine du social. Si ce n'est pas une transcription inconsciente d'une forme classique à une autre forme, où c'est à ce moment-là un contenu social qui apparaît et qui a été mis vraiment en avant par des gens et tous les autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas.
Non, je pense que quelque part, la question est intéressante aussi, hein, c'est-à-dire comment on a changé de mode de communication, donc comment on est passé au roman. Hein, c'est-à-dire le conte, dans ses attributs, il n'y a pas de personnage psychologisé. Les personnages sont des actants. D'accord ? Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'ils font. Mais on ne va pas dévoiler ce qu'ils pensent. Hein, la pensée n'existe pas dans les contes. Qu'est-ce que fait le roman quand il arrive ? On rentre dans la tête permanente des héros, hein. C'est vraiment dans leur pensée qu'on est souvent, beaucoup plus que dans ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire ? L'image, elle est là, mais... Donc ça veut dire que quelque part, bien sûr, on a un mode qui change, mais le conte persiste, il est toujours là. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on est à côté, voilà, de quelque chose qui, quelque part, continue à vivre. C'est-à-dire que ça fait quand même des premières traces écrites du conte, 2500 ans avant Jésus-Christ, quand même, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et le conte est encore raconté aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est le même conte transcrit, hein, le conte des deux frères. Voilà. Donc on est vraiment sur des espaces où, sur le plan anthropologique, en tous les cas, on se dit, mais pourquoi ? Hein, on sait très bien que quand quelque chose n'est plus utile à une société, elle l'évacue. Si ça persiste, c'est qu'il y a un besoin. À quel besoin répond le conte ? Que ne compasse pas le théâtre, le roman, voilà. Donc ça, c'est une vraie question pour les conteurs. Aujourd'hui, quelle est votre place en tant que conteur ? C'est qu'est-ce que vous défendez qui ne défend pas les autres arts ? Voilà, moi, pour moi, c'est la question essentielle du conteur aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce travail qui pour moi me paraît intéressant. Donc quand je portais le fait que c'est passé à la littérature, ce qui est intéressant aussi, on va le voir plus dans le détail, c'est que la littérature, pour fonder La Belle Endormie, va utiliser des motifs de la tradition populaire et des motifs folkloriques. Hein ? Par exemple, on va beaucoup s'interroger sur les chartes de lin. Hein ? Si vous voulez comprendre La Belle Endormie, il faut comprendre ce que c'est que le lin, symboliquement et folkloriquement. Le lin, la petite fleur jolie, le lin. Hein, voilà. Dans beaucoup de versions, elle se pique pas avec le fuseau, mais il y a une écharpe de lin qui lui rentre le lin est extrêmement important, on verra, on va le développer petit à petit, mais c'est dans le monde entier, le lin, c'est un élément essentiel symboliquement. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est vous passez à côté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous ne comprenez pas l'espace symbolique, vous allez passer à côté du sens en tant que tel. C'est ce qui est... Pour moi, le conte, il est là. C'est-à-dire qu'il y a l'anecdote, et puis il y a vraiment tout le sens qui est sous l'anecdote. Le roman, des fois, il n'y a plus que l'anecdote, mais le psychologique qui s'y rajoute. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le côté d'analyse sociétale. Voilà. Donc on est sur des motifs différents, on est sur des formes différentes, hein, en tant que tel. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça ? C'est-à-dire que je crois que le conte nous travaille, plus qu'on le travaille la plupart du temps, c'est-à-dire que c'est vraiment des motifs qui nous gênent, qui nous mettent dans des ambivalences profondes, mais ils touchent le préconscient, on réveille quelque chose. Mais quoi ? C'est pas posé. Et quand on demandait à un conteur traditionnel, ça veut dire quoi ? Ah, il disait ça, le conte ne dit pas. Hein ? Et c'est bien quand les questions remontent, c'est que ça s'est mis en chantier. D'accord ? Mais ça va pas atteindre. Voilà. C'est vraiment un espace où pour la conscience, c'est vous qui allez la construire, on ne vous la donnera pas en tant que tel.
Excusez-moi, est-ce que je peux.
Donc c'est aussi des outils comme ça qui me paraissent intéressants à voir dans la belle endormie. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça travaille dans la part d'ombre, dans la part de lumière, hein ? C'est-à-dire, où c'est qu'on a, nous, à bosser avec cette histoire-là. Voilà. Mais les motifs, on va voir qu'ils sont tous, par contre, issus de contes autres. Voilà. Il y a même un bouquin qui a été fait sur les belles endormies Tous les contes dans lesquels la bête a dormi existent. Hein, on parle de celui-là, mais il y a Blanche-Neige, il y a La Recherche du. Voilà, il y a une quantité de contes dans lesquels, le 425 qu'on verra plus tard, La Belle et la Bête. Hein, voilà. Là, c'est inversé, c'est l'homme qui est endormi. Voilà. Donc, on verra qu'il y a aussi des espaces comme ça qui sont extrêmement puissants, mais quelque part. Dernier point, peut-être, puis je vous laisse la parole. Ça me paraît important de voir aussi que les contes, on va du 300 au 749 dans la classification, donc c'est 449 types de contes qui existent. Hein, ce n'est pas La Belle Endormie et les trois autres contes, c'est une masse énorme, un conte merveilleux, hein, uniquement. Dans l'ensemble des contes, il y a 2000 et quelques types. Hein, mais ça veut dire que ces types, quand on les regarde bien, il n'y a pas un qui raconte la même problématique humaine que l'autre. Ce sont tous des chemins qui nous entraînent sur d'autres problématiques, même si des fois ils paraissent très proches en tant que tels. Quelle belle palette! Il y a de quoi s'amuser. Donc pour moi, le sens des contes se fait aussi des fois dans le réseau de contes. C'est-à-dire un conte nous éclaire un autre conte.
Bien sûr.
La connaissance du répertoire est absolument intéressante. Dans la mesure où, quelque part, on découvre des choses d'un conte qu'on était en train de travailler par d'autres contes. Parce que les motifs, par contre, sont diffusés dans l'ensemble des contes, mais ils ne prennent pas la même place. Et quand on les éclaire dans un conte, on s'aperçoit qu'ils éclairent aussi tout le réseau des motifs dans les autres contes. Belle mécanique qui a mis sûrement plusieurs millénaires à se développer, mais qui existe, elle est là. Mais ça, c'est pas le grand public qui voit ça, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut déjà redescendre un petit peu dans la matière. Hein. Les conteurs voyaient ça. Enfin, le voyaient. Ils n'étaient pas dans une intelligence analytique de ça, mais ils avaient une perception très puissante de ça. Bon, est-ce qu'il y a des questions si on va passer à...
Moi, j'aurais voulu intervenir, vous m'entendez ou pas ?
Oui.
Vous m'entendez ?
Oui.
Ah, okay.
C'est bien, belle remarque.
C'est fort parce qu'on me dit qu'on entend mal dans mon visio.
Est-ce que j'ai la parole ou pas là? Je ne sais pas.
Je ne crois pas qu'on vous entende au niveau de la salle.
Si. Ah.
Ok. Parce que j'entends quelqu'un d'autre parler, du coup, je ne sais pas si je peux intervenir.
Aussi, des gens qui ne sont pas dans cette polarité-là.
Peut-être écrivez un mot.
C'est des choses qui vient de s'abroger, de roi, par exemple, qui se transforme en femme pendant un certain temps et qui redevient roi à un moment donné. Donc, toute la question du travestissement des transgenres.
Oui.
Attends, on répond que je redonne la question ou reformule.
Même.
Qui est abordé, qu'on va aborder dans le séminaire.
Là, on ne comprend pas.
Donc, la question porte sur le titre des séminaires qui est sur genre masculin-féminin. Et la question porte sur est-ce que nous allons prendre en compte les autres genres ?
Alors, les contes qu'on a choisis volontairement, c'était aussi pour limiter. Mais quelque part, c'est évident qu'on peut très, très bien travailler au moment donné pour éclairer un élément sur d'autres contes. Moi, ce que je demandais, c'est qu'on reste centré sur ce conte-là. Mais par exemple, oui, les femmes travesties, il y en a dans les milieux de nuit, magnifique. Hein. Il y en a d'autres
Princesse
dans
Boudour le répertoire. Princesse Boudour et Prince Kamar al-Zaman, par exemple, voilà. C'est très beau.
Tout à fait. Donc oui, on peut le poser au moment donné pour peut-être comprendre un petit peu ce qui peut se jouer aussi dans l'espace du travestissement, c'est-à-dire dans vraiment la complexité que ça met en œuvre, en même temps, des deux côtés.
Ouais, au-delà du travestissement, ouais. Et en fait, qui reste un peu cette polarité, homme-femme, la femme qui, à un moment donné, se traverser en homme. Moi, ce que je parlais, c'est du spectre aujourd'hui, en fait, qu'on voit dans
Alors, pour moi, le spectre, il est posé de façon, subtile dans les contes. Hein, on verra que l'homosexualité, par exemple, dans Jean de l'Ours, elle n'est pas inintéressante. Hein, la bande d'hommes qui va se déplacer pour et qui ne veut surtout pas qu'il y ait d'extériorité féminine, il va falloir déclencher d'autres choses. Hein, elle est sous-jacente, c'est-à-dire, mais en même temps, les contes ne nous en parleront jamais directement. Ils vont en parler par des figures qui nous la font penser, ce que j'appelle l'effet miroir. Hein.
Mais c'est vrai que sur ces séminaires, on aurait pu glisser, mais ça sera, on le mettra pour les rencontres, pour en garder pour la suite. On est parti sur le terreau plutôt de notre zone géographique. Mais en ouvrant, par exemple, sur les continuites, là, il y a quand même, par exemple, quelqu'un qui naît avec des attributs féminins et que la grand-mère salue en disant « mon petit frère ». D'accord.
Il y a le troisième genre qui est vraiment pris en compte.
Et qui est vraiment pris en compte. Enfin, bon, c'est,
Donc là aussi, c'est vraiment un espace sur lequel il y a, on verra que dans nos cultures, on a du mal à en parler de façon claire, parce que socialement, pendant très longtemps, ce n'est pas clair du tout. Hein, il faut penser que les contes, bon, ils évoluent très lentement. Voilà. Mais quelque part, comme ce n'était pas clair, on en parlait de façon sous-jacente. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que ça existe, mais dans le regard sur les choses, pas obligatoirement. Dans une figure aussi claire au niveau sociétal. Hein, voilà. Mais ils y sont. Oui, ils y sont. Pour ça qu'il y a vraiment des contes qu'on essayera de mettre en valeur aussi, qui sont dans ces ambivalences, en tous les cas, dans les contes. Hein, pour moi, le travail d'ambivalence fait travailler ces figures-là, par obligation. Hein, voilà. Ça dépend aussi comment le conteur va le raconter. Ou il s'en décharge, ou il prend en charge. Ça, c'est encore autre chose.
Sans compter, si je puis me permettre, le côté qu'on a tous un côté masculin et féminin en nous, qui n'est absolument pas négligeable dans le conte merveilleux, si on considère qu'on est toutes les mêmes pères. Enfin, c'est notre... Voilà, et ce côté masculin-féminin ressort énormément aussi dans nos sociétés aujourd'hui, où peut-être que les hommes n'assument pas assez leur côté féminin, et les femmes, parfois, pour exister à ce micro, leur côté masculin, pour pouvoir exister dans la société patriarcale, ça peut questionner aussi tout ça.
Les contes merveilleux, en même temps, ont une caractéristique qui est assez intéressante. Si vous regardez bien, ça part toujours d'un endroit où il y a une défaillance. Où il y a un roi qui est vraiment pas brillant, il n'a pas de reine. Hein, où il y a une reine qui n'a pas de roi. Et puis toute l'histoire nous raconte comment le roi va trouver sa reine et la reine va trouver son roi. Pareil, si on le lit au niveau sociétal, on se dit que c'est encore un truc patriarcal, d'accord ? Si on le prend symbolique, si on le prend par exemple sur la dimension que Jung pose au niveau de l'anima, l'animus, on s'aperçoit que c'est un rétablissement d'un équilibre masculin-féminin. Et si on regarde le conte dans cette dimension, ça éclaire aussi énormément. Voilà, il y a énormément de motifs qui vont venir remettre en cause des états. Et donc c'est intéressant aussi dans ce sens-là. Hein.
Oui. Il y a une question à l'ordinateur ?
Oui, il y a plusieurs questions. Donc, il y a une personne qui souhaite intervenir et poser une question. Donc, je remets
mon micro. Et donc, première question. Est-ce qu'on peut avoir le titre du conte où le roi se transforme en femme ?
Tu viens de... je ne l'ai pas en tête directement. Attends.
Alors, la princesse Boudour et le prince Camaralzaman, c'est la princesse qui, comme elle est entourée que de gardes et que son mari n'est plus là, elle est en plein milieu du désert. Donc, par sécurité, elle prend tous les attributs masculins. Et après, elle va se retrouver mariée.
Puisque c'est le fameux prince Camaralzaman.
Donc elle va se retrouver dans le lit avec une princesse. Et l'histoire est très belle. Mais ce n'est pas le sujet. Et sinon, il y a Tirésias qui a été transformé masculin-féminin.
Il y en a d'autres aussi.
Tournez votre ordinateur aussi, parce qu'en fait, on vous entend mal quand vous n'êtes pas devant l'écran.
On est reparti.
Non, il n'y a pas de problème. Et je donne la parole, si vous le voulez bien, à une personne qui souhaite. Voilà. Est-ce qu'on voit cette personne ?
On pose sa question.
Il y a trop de l'écho.
Il y a trop de l'écho quand moi j'active. Essaye de lui donner les personnes en temps quand moi j'active.
Oui.
Excusez-moi.
Quelle est la question ?
La journée, la France va mieux rôder. Donc c'est Kamaz qui veut poser une question.
Posez la question.
Oui, bonjour. C'était pas tant une question. Est-ce que maintenant vous m'entendez ou pas ?
Oui.
Non, ce n'était pas tant une question qu'une remarque par rapport au cadre préliminaire posé par Marc. Et je me disais une chose, c'est que dans la mesure où nous nous accordons, en tout cas les uns et les autres, pour dire qu'il y a une lecture du conte qui est d'ordre symbolique, je me demande s'il ne faudrait pas nous-mêmes changer notre paradigme d'analyse, c'est-à-dire que la focalisation qu'il y a sur les personnages qu'on appelle le héros ou l'héroïne, c'est-à-dire si on prend analogiquement dans le héros, dans le roman, ça va être le personnage principal. Donc ça va être un personnage masculin ou féminin. Or, si on fait un pas de côté nous-mêmes et qu'on observe plutôt la structure du récit en tant que héros et non pas les personnages masculins ou féminins, je pense que d'emblée nous donnons une clé de lecture qui est juste, qui affirme que on n'analyse pas un conte comme on analyse un roman ou un théâtre, et que mettre en avant la question de l'action plutôt que le personnage pourrait être une façon de travailler qui renverserait le paradigme. Et par ailleurs, je voulais attirer l'attention sur le fait que le conte nous informe de quelque chose qui est que le titre « La Belle au bois dormant » c'est le nom de l'héroïne, ou en tout cas du personnage qui est endormi, qui est le moins actif. Et que ça nous renseigne déjà sur quelque chose. Pourquoi ce ne serait pas le prince qui va… voilà. Et quand on va dans le conte, effectivement, à la recherche de l'époux disparu, de la même manière, celui qui est endormi, c'est le personnage masculin, mais le titre du conte, c'est « La plume de Fier Faucon ». Donc, on voit que les contes attirent notre attention sur le fait que les héros et héroïnes ne sont pas ceux qui sont nécessairement désignés comme étant actifs.
Alors, ça, moi, je vous entends très bien. Hein. De toute façon, on va en reparler beaucoup de cette notion de la structure du conte en tant que telle. Hein. Les conteurs traditionnels étaient d'ailleurs extrêmement à cheval sur le fait que la structure primait sur le héros tout le temps. Hein. C'est-à-dire que les conteurs traditionnels, bon, il y a un travail qui avait été fait par Viviane Labry au Québec. Voilà. Et tous vous disaient, pour raconter un conte, il faut connaître le chemin, il faut suivre le chemin. Et ils disaient toujours, il faut d'abord donc définir tout ce qui était les points d'espace, tous les lieux où se passe quelque chose. Hein. Il fallait définir le temps que ça dure. Après, on pouvait commencer à définir les personnages, et enfin, on pouvait parler des actions. D'accord ? Mais si on commence à parler que des actions, il manque quelque chose pour moi aussi. Hein. Après, il y a pour moi une règle qui est aussi intéressante quand on travaille le conte merveilleux, c'est que les personnages principaux ne sont pas les héros. Pour moi, ceux qui font avancer l'histoire, c'est les personnages secondaires. Et souvent, on ne va pas les travailler parce que quelque part, c'est des personnages secondaires. Et c'est souvent eux qui donnent les clés symboliques. C'est vraiment eux qui font avancer le chemin. Donc, tu as aussi, mais oui, bien sûr, la structure est essentielle. Hein, et d'une, pour moi, la structure, c'est vraiment le contenant. Extrêmement rigide d'ailleurs dans les contenants merveilleux. Hein. Là, les contenants sont hyper structurés et hyper solides, mais je pense qu'on ne pourrait pas aller aussi loin dans un travail avec le conte merveilleux si on le faisait exploser le contenant. Ça serait dangereux. C'est un peu la bouée. Hein. C'est ce qui nous permet de jamais décompenser sur des problématiques. On sait ce que le conte nous amène à faire, plus ou moins il a des cadres. Voilà. Mais oui, je pense que votre proposition est intéressante en tous les cas comme mode d'approche. Merci.
On passe au... C'est bon, hein ? Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais rebondir avant de démarrer sur ce que je vais vous proposer. C'est un petit topo sur cinq versions anciennes. Je n'irai pas trop loin sur le roman de Perse Forest, puisqu'on aura l'intervention de Rachel Salter sur ce sujet. Mais au moins, enfin, j'imagine que pour préparer ce séminaire, tout le monde a lu au moins une version de La Belle au bois dormant, mais vous n'avez peut-être pas lu... un grand nombre de versions, à part ceux qui ont vraiment bossé dessus parce que ça fait partie de leur répertoire. Mais voilà, donc pour mettre tout le monde à niveau pour cet après-midi, plonger vraiment
dans le récit, je vais vous donner un peu les trames. Je rebondis quand même sur cette histoire d'âge, et on va le voir justement dans les versions. Et c'est pour ça que quand Marc disait de mettre une version en résonance avec les autres versions, c'est éclairant, et en résonance avec le corpus de la littérature orale, c'est éclairant aussi. Nous allons le voir par exemple sur la question de l'âge. On verra qu'entre une version, quand on a envie de raconter, on est entre adultes et on a envie d'être un peu scabreux, parce que parfois, l'ambiance se prête à être scabreux. On va peut-être tirer vers Basile et avoir du cabotinage. Ou alors, on va se dire, mais non, je mettrai du scabreux en racontant un petit conte facétieux, mais le scabreux n'a rien à faire ici et je vais absolument pas choisir, si je veux raconter du scabreux, de raconter La Belle au bois dormant. Et quand je raconterai La Belle au bois dormant, je choisirai d'autres versions, en m'inspirant d'autres versions et en évacuant justement le passage de Basile. Mais pour ça, il faut maintenant plonger dans les différentes versions. Et sinon, dernier petit point, on parlait du AT410. Tout le monde est au point avec ce terme AT410, où quelqu'un, il suffit de me faire un petit geste et ça s'explique. Tout le monde est au point ? Non ? Donc, juste en fait, par exemple, là, quand on parle de La Belle au bois dormant, Marc a dit La Belle endormie. Dans un autre, c'est Blandin de Cornouailles. Chez un autre, c'est Seyf El Moulouk. Et la princesse Bedi El Gamal Périzade. Vous imaginez bien qu'on ne va pas aller dire, bon, pour Blanche-Neige, c'est encore plus parlant. Vous n'allez pas dire à des Libanais qui l'appellent Perle de Grenade, ah non, mais en fait, votre histoire, c'est Blanche-Neige. Vous voyez que ce n'est pas possible de faire ça. Donc, les linguistes qui classifient ont enlevé les noms et ont mis quelque chose qui convient à tout le monde, un chiffre. Donc, c'est pour ça que le 410, c'est dans le corpus.
Il y a une histoire que moi, j'aime bien, qui est très parlante. Hein. C'est quelqu'un qui arrive dans un hôpital, justement, et puis il voit des personnes qui sont là, et ils sont tous en train, il y en a un qui se dit « 310 400 !» Il dit « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Ils se racontent des histoires. Voilà, mais quelque part, comme ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et puis, ils savent très bien laquelle c'est. Ah, je peux essayer. 250. Personne ne bouge. 300. 400. Puis là, il y en a un qui se lève et dit, raconte mal, lui.
Bon. Voilà, donc AT410, et le AT, ça a référence au nom des linguistes, Arne et Thomson, et maintenant, il y a U. Uther qui a rajouté un prolongement. On retrouve cette classification pour ce qui est du domaine français dans le conte populaire français de la rue Ténèse.
Pour comprendre, il faut que c'est pyramidal, c'est-à-dire que la classification internationale se fait à Helsinki, donc tous les chercheurs qui trouvent une version l'envoient à Helsinki, c'est classé là-haut, et après chaque pays va faire sa propre classification, mais en référence donc au numéro international. C'est-à-dire que le 410 dans le monde entier, où que vous soyez, ça sera toujours une belle endormie ou une belle... voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'éditeurs qui, à la fin d'un volume, mettent des tables de correspondance. Oui. Donc, quand on cherche une belle endormie, on regarde la table de correspondance. S'il n'y a pas de 410, on ferme. On n'a pas à tout lire pour en trouver une. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait gagner beaucoup de temps.
Donc, maintenant qu'on a mis ça au point, je plonge avec vous dans différentes versions de La Belle au bois dormant. Donc, elle est attaquée. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cet après-midi, je vous ferai un petit topo sur ce qui s'est passé pour elle fin 19e, début 20e siècle. C'est quand elle a été critiquée ou quand elle est critiquée, qui est critiqué ? De quelle Belle au bois dormant parle-t-on ? Donc, j'ai fait un travail à partir de 5 versions que j'ai classées, celles qui ont lieu avant le XVIIe siècle et puis celles avec le XVIIe siècle, avec Basile et Perrault. Et ensuite, Perrault va quand même devenir un peu la référence en tous les cas pour la France. Donc, avant le XVIIe siècle, et je ne vais pas vous donner toutes les trames comme ça, j'ai articulé ça autour de trois questions. Pourquoi elle s'endort? Pourquoi elle se réveille-t-elle? Et quelle est sa relation avec le prince? Parce qu'après, on verra cet après-midi dans les détails, hein, le fuseau, le lin, oui. Le fuseau, le lin, etc. Donc, on vous fait passer le contenu de ce que je vais vous dire.
Donc, pour ceux qui sont en ligne, il faut faire un partage d'écran, s'il vous plaît.
Donc, il y a deux feuilles. Hein.
Ce qui s'est passé là.
Ouais, partage d'écran, il faut cliquer sur partage d'écran. Tac. Cela va arrêter. Voilà.
C'est, moi qui vais
c'est bon. C'est parfait.
Donc, c'est la première.
Et après.
Page.
Voilà. Normalement. Pardon. Vous n'en avez pas. Ça arrive. Il en faudra une pour Marc. Mais enfin, il a tout en tête.
Ça ne marche pas. Ah.
Moi, j'ai que la première part. Ouais, il y a une première et une deuxième, elles étaient à la première.
Mais si vous voulez, je peux c'est commencer à vous en parler sans que vous ayez forcément le support.
Oui. Sous
donc, avant le XVIIe siècle, nous avons « Pourquoi s'endort-elle ?» Alors, dans le roman provençal « Blandin de Cornouailles », qui date du XIIIe-XIVe siècle, eh bien, il n'y a pas de raison. La raison est inconnue. En tous les cas, pouf, elle est enchantée. Dans Les Mille et Nuits, le conte de Seyf el-Mulouk, donc on trouve des traces à la BNF de ce texte qui date du XVIe siècle, mais donc on suppose qu'il est antérieur encore. On ne le trouve pas dans les versions de Galland. Hein, donc c'est... Voilà.
Chez Mardrus.
Chez Mardrus, on le retrouvera. Donc, en fait, cette princesse refuse les avances d'un génie qui, du coup, la plonge dans un sommeil. Elle est comme figée, assise sur son trône. Dans Frères Joie et Sœurs Plaisir du XIVe siècle, elle meurt sans raison apparente au cours d'un repas. On dit qu'elle meurt, en fait. Donc, elle meurt sans putréfaction, sans rien, donc elle dort et surtout qu'elle va se réveiller, mais enfin, à ce moment-là du texte, il est écrit « elle meurt ». Dans le roman de Perse Forest, la déesse Thémis prophétise sa destinée, se percer le doigt d'un filet de lin, et pour se réveiller, il faudra l'enlever. Vénus dit que par son art, elle saura le faire enlever. Donc, pourquoi s'endort-elle à partir du XVIIe siècle? Chez Basile, c'est sa destinée. Et puis, par curiosité, elle s'approche d'une fileuse, se pique avec un écheveau de lin et cela déclenche l'enchantement, elle s'endort. Et chez Perrault, c'est la même chose. C'est des sorts jetés là par les fées. Donc, ce ne sont pas des astrologues qui annoncent sa destinée. Ce sont des fées qui jettent le sort. Un peu comme dans Perse Forest, et sauf que celle qui rattrape le coup, ce n'est pas Vénus, c'est juste une fée. Donc on verra cet après-midi quand on entrera qu'il y a une différence entre le fait que ça soit juste une énième fée, enfin la fée bleue ou la fée rose ou je ne sais quoi, et le roman de et que ce soit Vénus qui donne une autre inclinaison. Ça a une portée sur la rencontre ensuite. Donc, en tous les cas, chez Perrault, c'est des sorts qui sont jetés par les fées. Et de nouveau, par curiosité, elle s'approche d'une fileuse, se pique au rouet, déclenche elle-même donc l'enchantement et s'endort. Ensuite, pourquoi se réveille-t-elle? Donc, chez Blandin de Cornouailles, le prince parvient à prendre l'autour blanc qui est gardé par un serpent, un dragon et un sarrasin. Donc, il accomplit, on peut dire, des exploits très importants. Et du coup, en récupérant l'autour, il lui permet de se réveiller. Dans les mille et nuits, le prince met en cendre le génie, donc qui était celui qui avait jeté l'enchantement, qui était donc le geôlier de la belle. Et pour cela, il a d'abord été chercher son âme à ce geôlier génie, cette âme qui était sous la mer, dans un coffre, à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur du cœur d'un passereau. Donc là, le motif du corps sans âme, on le retrouve beaucoup dans d'autres récits. Dans Frères Joie et Sœurs Plaisir, alors on trouve non pas le passereau, mais cette fois-ci le jet, envoyé par le prince qui lui apporte l'herbe qui va la réveiller. Et dans le roman de Perse Forest, la tante voit que le nouveau-né cherche à téter et elle lui donne le doigt. Il retire, donc, parce que donc, vous avez bien compris que dans Perse Forest, un enfant lui est né alors qu'elle était toujours endormie. Hein, et donc, ce qui la réveille, c'est le fait qu'il vienne téter son doigt là où il y a les chardes de lin. Au XVIIe siècle, chez Basile, les enfants lui sucent le doigt et retirent les chardes. Et chez Perrault, le prince apparaît et cela suffit à rompre l'enchantement. Donc, dans la deuxième feuille, on voit la relation avec le prince. Donc, avant le XVIIe siècle, dans le roman provençal, La Belle et Blandin, donc je vous rappelle, il a récupéré l'autour, elle se réveille, et ben là, il tombe amoureux et il se marie. Dans Les Mille et Nuits, Seyf El Moulouk était amoureux de son portrait qu'il avait trouvé dans le temple de Salomon. Donc, il l'a délivré en accomplissant l'exploit de trouver l'âme du génie et en le réduisant en cendres. Donc, il l'a cherché, il l'a trouvé, il l'a délivré, ils sont amoureux et ils se marient. Dans Frères Joie et Sœurs Plaisir, le prince la trouve, la princesse porte un anneau prophétique qui annonce qu'elle sera réveillée quand celui qui la délivre aura pris joie parfaite. Donc, vous voyez comment ensuite Basile va prendre ça et va en faire un truc tout à fait scabreux en enlevant. S'il n'y a pas l'anneau, c'est scabreux. Bon, ça reste scabreux quand même, hein, ce passage. Mais, bon, en tous les cas, il va porter à question. En tous les cas, voilà. Elle sera réveillée quand celui qui la délivre aura pris joie parfaite. Et donc, il est bien marqué dans le livre qu'il se soumet un peu à le faire, mais finalement, bon, voilà. Donc, ensuite, il y a la naissance d'un fils. Et comme pour accéder à la tour de cette princesse, il faut passer par un pont de verre, enfin c'est impossible à réaliser, tout le monde pense que c'est une action du Saint-Esprit. C'est marqué dans le texte, le Saint-Esprit. Donc, petit clin d'œil à la Vierge Marie. En tous les cas, au réveil, on est en plein amour courtois. Gros dialogue argumenté de plusieurs pages sur qu'est-ce que c'est que ce toucher non autorisé. Et je ne vais certes pas donner mon cœur à celui qui a pratiqué ce toucher non autorisé. Donc, très très long dialogue argumenté. C'est typique des romans de l'amour courtois. C'est la même chose avec... la belle est amoureuse de son époux, le chevalier vient en duel, il tue l'époux et ensuite il est amoureux de la belle, donc il veut l'épouser et elle dit mais pas question, mais au bout de l'argumentaire il l'épouse. Et bien là c'est pareil, au bout de l'argumentaire elle finit par l'épouser
avec le jet qui est un sacré avocat.
avec le jet qui est un sacré avocat. Donc, on garde en lien aussi cet oiseau qui apparaît plusieurs fois dans les versions. C'est qu'il y a quelque chose à nous dire là-dedans. Alors,
le jet, pour comprendre, peut-être, il faut faire attention dans la traduction. C'est papagaille, donc c'est un perroquet souvent. Hein, voilà. Et il a les couleurs du perroquet. Mais donc, c'est aussi des problèmes qu'il faut bien résoudre tout ça, parce qu'il y a dans les appellations occitanes et autres, il y a aussi des espaces qui sont un peu traîtres au nom. Hein.
Et que dire sur ce... quand on... Elle finit par l'épouser parce qu'il y avait cet anneau qui... Enfin, dans l'argumentaire, parce que je ne vais pas vous... Je vous résume l'argumentaire, mais dans l'argumentaire de l'oiseau, il y a le fait qu'il y avait cet anneau qui engageait et qu'il y avait un anneau d'échange et qu'elle se retrouve avec l'anneau du roi. Et où il dit du prince, où il dit qu'il va vraiment se mettre à son service. Dans le roman de Perse Forest, donc c'est la belle Zélandine, Zéphyr, en oiseau, porte Perse Forest dans la tour de la belle endormie à condition, c'est la condition pour y aller, qu'il s'engage à suivre les conseils de Vénus, donc les conseils de Vénus. Vous vous souvenez, j'avais dit que quand Thémis avait avait prédit la destinée, Vénus avait dit que par son art, elle saurait le faire enlever. Donc, quel est l'art de Vénus? Là aussi, cet après-midi, on pourra creuser. Au XVIIe siècle, c'est beaucoup plus simple chez Basile. Embrasé par sa beauté, il se saisit d'elle et cueillit les doux fruits de l'amour. Donc là, il n'y a pas d'anneau qui fait une prédiction. Il n'y a pas la déesse Vénus qui dit qu'il faudra que tu... Non, c'est de lui-même.
C'est radical.
Donc, c'est celui qui... Bon, bref, pas de commentaires pour l'instant. Donc, naissance des jumeaux pendant le sommeil, puis réveil et vie heureuse avec soleil et lune. L'épouse du roi, ah oui, parce que quand même ce roi qui est embrasé par sa beauté cueille les fruits de l'amour, est marié. Hein. Et du coup, son épouse n'apprécie pas ce petit pas de côté. Et donc, commande au cuisinier de tuer les enfants, soleil et lune, puis la reine. Mais heureusement, et pour que son époux les mange. Mais bon, le cuisinier et le roi ensuite vont les sauver. Chez Perrault, non, il n'y a pas de vieille reine jalouse. Le roi n'est pas marié, c'est un prince. Il faut que ça fasse rêver quand même. Une fois qu'elle est réveillée, elle semblait d'ailleurs attendre le prince. Il y a une très jolie phrase. « Ah, c'est donc vous, mon prince hein ?» Puis on sait que sur le chemin, la forêt inextricable s'ouvre devant le prince.
Hein. Quelque chose qui suit, quelqu'un même, vous vous êtes fait bien attendre.
C'est tout, en gros, ça y est. Bon. Ils ont des enfants, des jumeaux, Aurore et Jour, donc on voit bien la suite hein, de Basile. Et donc là, il n'y a pas d'épouse, puisque c'est un prince, un beau prince, charmant. Mais il y a une reine-mère qui est une ogresse et qui veut, elle aussi, les manger. Et le cuisinier va les sauver, et le roi aussi. Voilà, donc en fait, on voit qu'avant le XVIIe siècle, la belle endormie est endormie soit sans raison, soit c'est la fatalité, le fatum, hein, l'action de la fée. Dans les tragédies, c'est le destin, le fatum. Elle est sous l'emprise d'un geôlier, ou alors elle est encore soumise à une double destinée, c'est se piquer sombre dans le sommeil et être délivrée par Vénus. J'ai noté amour, mais Vénus, c'est plutôt le désir, la pulsion, enfin, on verra ça cet après-midi. Mais au lieu de amour, disons plutôt Vénus. Au XVIIe siècle, par contre, en fait, elle est responsable de ce qui lui arrive. Parce qu'il y a une prédiction au départ, mais quand même, c'est sa curiosité qui fait qu'elle va se piquer. Donc, il n'y a pas de geôlier et donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est plus déjà la même histoire. Avant le XVIIe siècle, les amants se réunissent après le réveil. Hein, on a plusieurs versions comme ça. L'amant agit comme si cette action, si l'amant, intervient de façon sexuelle, un lien sexuel avec la belle, c'est qu'il agit dans l'histoire comme si cela, cette action, pouvait sauver la belle. Et d'ailleurs, en réalité, dans le conte, ça sauve la belle, puisque c'est ses enfants qui retirent les chevaux de l'un. Donc, c'est la condition exigée par Zéphyr, où c'est l'anneau qui commande de prendre joie parfaite, et que c'est qu'à cette condition qu'elle pourra se réveiller. Au XVIIe siècle, donc, tout ça disparaît. Le héros Basile agit car il ne peut s'empêcher de satisfaire son plaisir. Rien dans les prophéties ne l'engageait à faire cela. Et Perrault, lui, on se rappelle que lui, il écrit en plein cœur du XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes fait rage, la bienséance est une norme à laquelle on ne déroge pas. Donc, il atténue le motif de Basile et c'est seulement sa présence qui réveille la princesse, mais du coup il n'accomplit pas non plus d'action héroïque, hein. En fait le prince, il passe par là, la forêt s'ouvre, voilà. Donc les questions que ça m'amène, et puis vous allez pouvoir réagir sur les questions qui surgissent pour vous avec ce panorama des différentes versions. Moi, je me suis dit qu'avant d'interdire ce conte ou avant de le mettre au bûcher, ben, il fallait regarder de quelle version de l'AT410 nous parlions. Est-ce qu'on doit s'interdire de raconter cette histoire? Parce que là, vous le savez, comme on lance une grande campagne d'adhésion au CMLO, donc tous ceux qui sont là sont déjà adhérents, mais n'hésitez pas à continuer à faire adhérer. Du coup, j'ai été beaucoup en contact là avec des conteurs et j'ai eu une conteuse qui m'a dit qu'elle ne comptait plus, en tous les cas, elle ne racontait plus les contes merveilleux, parce que c'était vraiment trop la traduction d'un système social rétrograde. Et donc, je me suis dit, voilà, est-ce qu'on doit aller jusqu'à s'interdire de raconter cette histoire? Des hommes fantasment sur des femmes endormies. Et des femmes fantasment sur des rapports dans leur sommeil. Mais est-ce que c'est à cause de la Belle au bois dormant? Moi, je ne crois pas que le conte fasse, enfin, j'affirme que le conte ne fait pas la promotion des infanticides, des pères incestueux, des rapports non consentis. C'est une petite, un petit clin d'œil, référence, citation à Bernard Chouvier. L'univers du conte est en correspondance avec les parts cachées de la vie psychique, celles qui souterrainement agissent sur nos pensées et sur nos actes. Le conte a à voir avec les désirs les plus profonds qui nous habitent, avec les contraintes et les peurs les plus enfouies. Donc, il s'agira cet après-midi, sans sous couvert de la psy, tout accepter et tout dire, mais en conscience, en ayant parcouru les différentes versions, en ayant une connaissance du corpus, voyons ce qu'on peut faire de cette AT410. Et donc, c'est pour cet après-midi un peu plus de se questionner sur que nous dit en fait ce conte. En sachant que moi, quand je lis ce conte, je suis la belle endormie, mais je suis le prince, je suis la forêt, je suis le génie qui veut et qui ne supporte pas de ne pas avoir. Je suis peut-être le corps sans âme parfois, et bien contente quand l'âme revient à la bonne place d'ailleurs. Voilà.
Je pense qu'il y a quelque chose pour moi, une aussi des clés du travail que moi je perçois sur les plantes merveilleuses, c'est que c'est un outil fabuleux si on accepte d'être dans l'empathie avec les propositions. C'est-à-dire que vraiment, si on reste extérieur, on reste à l'anecdote. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quelque part, pour moi, le rôle du conteur, c'est d'engager les personnes dans l'empathie des différents personnages. Hein, ce n'est pas simple. Le conte ne peut être perçu que si on va dans cette complexité-là, le conte merveilleux. Si on évite toutes les zones d'ombre, si on évite tous les... Pour ça que je disais, les personnages secondaires sont peut-être plus importants que le héros, parce qu'ils viennent tous nous pointer les difficultés, les endroits transgressifs, les espaces. Et donc, c'est évident que là, il y a un gros travail pour chacun d'entre nous à aller chercher ces endroits-là. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment cet endroit de l'empathie qui me paraît essentiel. Donc, j'ai tendance à dire que quelque part, ces contes-là, ils sont peut-être plus puissants quand on les fait raconter que quand on les raconte. Voilà. Mais si c'est bien raconté, on se les raconte dans sa tête après. Mais est-ce que je veux dire, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, là aussi, hein. Mais c'est plus dans l'appropriation du récit que pour moi, il y a quelque chose qui se passe, que uniquement dans l'écoute. Hein, c'est vraiment quelque chose qui se transfère en tant que tel. Et c'est spécifique à aux contes merveilleux. Hein. Les autres contes ne travaillent pas du tout comme ça. Les autres contes sont plus dans la tête, ne sont pas tellement dans la profondeur en tant que tel. Hein. Donc c'est vraiment un espace de réflexion. Moi, je crois beaucoup à ces récits en tant qu'espace de médiation. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'endroit qui permet justement de ne pas zapper les choses complexes, si on travaille vraiment dans ce cadre empathique. Je vous parlerai d'expérience après que j'ai pu avoir avec ce type de choses, mais je peux vous dire que faire travailler des futurs chauffeurs routiers par rapport à la fille aux mains coupées, et les faire travailler l'empathie là-dessus, ça change des rapports sur le féminin, même si c'est que sur 3 séances. Oui.
En fait, le conte de la manière dont on fait a toujours été structurant pour les sociétés, pour les individus. Mmh. Il a apporté un cadre, définissé les limites, les interdits, les aides, les problèmes, etc. Et aujourd'hui, on voit dans la société qu'on ne veut plus de cadre. On cherche de plus en plus à se départager de ça, on veut plus de structure, on veut plus de l'image du frère comme cadran, la structure, tout ce qui peut entrer dans les cases, on le rejette. Donc que ce soit le féminin, le masculin, et du coup le conte rentre parfaitement dans ce qui est rejeté aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, la question, par exemple, c'était que fait-on de ce qui est entre le féminin et le masculin. C'est compliqué parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes maintenant refusent de se définir dans ces schémas-là. Ce sont des schémas traditionnels sur lesquels on se repose depuis des millénaires. Donc, que répondre à ça ? Est-ce que le conte est capable de répondre à ça puisque le conte apporte de la structure que l'on rejette aujourd'hui ?
Merci. Pas parce que.
Alors, oui. Que c'est moi.
Je reformule la question.
Voilà. Ouais, okay. Pour la femme.
Donc, la question c'est. Non, la question c'est le conte apporte une structure. Or, on est dans un monde où les gens refusent d'être, en tous les cas, catégorisés. Mais. Il y a l'histoire de structure, mais en tous les cas, refuse d'être dans un cadre, en tous les cas.
Mmh. Oui. Aujourd'hui,
donc, que fait-on avec ça ? C'est ça ta question.
Et puis, je pense, donc je suis, mais je dis, donc je suis.
Oui, la parole créatrice, très bien, au début était le verbe, c'est bon.
Moi, je peux essayer de voir un regard anthropologique là-dessus. Hein. Donc, sur le plan anthropologique, il n'y a pas de société sans structure. Toute révolution, c'est une tentative de casser des structures pour en construire d'autres. Voilà. Ça déjà, et souvent, les révolutions font un rétrogradage sur les structures précédentes. Ça, c'est assez classique. Voilà. Donc, après la remise en cause des structures, oui, ça me paraît évident aujourd'hui, mais pour moi, c'est un problème aussi. C'est pas que, il n'y a pas que bénéfice. Hein. Et je pense que justement, le fait que le compte nous propose des structures qui ne soient pas des structures rigides en tant que contenant, mais pas rigides en tant que sens, ils peuvent permettre peut-être de repenser des formes de structurantes, qui ne soient pas des formes structurantes, c'est-à-dire qui soient contraignantes au point où elles l'étaient avant. C'est vraiment des outils à penser le patriarcat. Pas de le reproduire, vous voyez ce que je veux dire, mais de le penser, c'est-à-dire d'aller le réexpérimenter pour trouver autre chose. Parce que sinon, si on ne fait pas un travail de cet ordre-là, les structures qu'on va nous proposer, c'est le libéralisme, c'est tout ce qui est les grandes structures politiques et autres. Et je peux vous dire qu'il n'y en a que moi en ce moment. Toutes ces failles sont des enjeux absolument intéressants à récupérer sur le plan politique. Hein. Parce que là où il y a du vide, on a vite fait de mettre du plein. Hein. Donc, il y a cet espace-là. Moi, je pense que le compte a toujours été, de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui, un contre-pouvoir. Il n'a jamais trop été aimé par les politiques. Hein. Parce que justement, il n'est pas... on peut en faire, soit par la religion, soit par le politique, des espaces de morale. Mais à l'origine, quand on est sur le monde populaire, ce ne sont pas des espaces de morale, ce sont des espaces de réflexion, de questionnement. Surtout le compte merveilleux. Hein. Voilà. Donc là aussi, c'est des espaces où moi je dirais que oui, il y a un gros travail à poser en tous les cas comme objet de. Moi, je reviens, c'est objet de médiation. C'est-à-dire que si on le prend non pas comme un diktat, mais comme un lieu du questionnement, intéressant.
Mais encore, oui, il peut y avoir ce lieu de questionnement, c'est-à-dire un espace de parole, oui, qui suive le compte. Oui. Or, le problème, il vient justement peut-être que cet espace. Tu disais tout à l'heure qu'il existait dans les veillées où il y avait un moment d'échange, mmh, ou autre, n'existe plus. Mmh. Ce qui fait que peut-être, je ne sais pas pourquoi la...
La question, enfin, ou le commentaire amène qu'effectivement, pour qu'il y ait médiation, il faudrait peut-être laisser une place à un temps de parole. Or, là, le conte actuellement, il est sous forme, mmh, de spectacle. Hop, on applaudit et on rentre. Oui. Pas tout le temps, mais voilà. Mais voilà, comment mettre cet espace de médiation,
le remettre cet espace, et ça me fait réagir par rapport à la personne dont tu parlais qui dit je refuse maintenant de compter mon compte merveilleux. Bon, elle avait ses raisons, mais moi je sais que lorsque j'ai souvent des réflexions de parents quand j'anime des cercles de compte qui avaient peur. Justement, pour apprendre des comptes sur la peur, on en parlait tout à l'heure, et qui faisait des réflexions à la maîtresse en disant qu'il ne voulait pas que je raconte ça. Alors que, comme tu disais, les enfants s'en emparaient, racontaient avec leur preuve, et que l'espace va y être de la parole.
C'est
très compliqué.
C'est la peur des parents.
Oui, parce que justement, moi, je me suis peu interdit de raconter.
Mais en cercle de parole, du coup, tu racontais et les enfants racontaient aussi.
Oui, oui,
c'est ce qu'on disait lorsque. Enfin, c'est ce que Marc disait. C'est des contes qui sont intéressants à raconter et ils le sont peut-être encore plus à faire raconter.
Et c'est fabuleux d'ailleurs de voir comment ils ont perçu.
Oui.
Il y a Hélène qui veut prendre la parole.
Mais Hélène, tu as une interview. Oui, enfin, là, tu peux. Mais juste après la pause, on a prévu que tu puisses prendre la parole, hein, de façon ici structurée, si tu veux. Là, un petit détail. OK.
Paternalisme et des cadres de catégories. Et si je fais ça, je vais te dire que dans les catégories, il y a énormément, justement, par rapport à la peur, on est soit vegan, soit dans l'alimentation. Donc, on est en train de catégoriser énormément d'autres versants. Et là, on est sur des choses qui sont reliées à la logique.
Donc, là, l'intervention, elle vient mettre en bémol l'intervention qui disait qu'on était dans une société qui refusait les cadres, on voulait être défini en dehors des cadres, pour dire qu'au contraire, on catégorise énormément, t'es vegan ou tu l'es pas, ou t'es même, il y a vegan, enfin bon, il y a de plus, avant c'est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie,
Donc, c'est, on peut aller jusqu'à du détail très, très précis. On est dans un cadre, voilà. Oui.
Ouais. Mais sur le plan anthropologique, c'est le propre d'une société qui n'a plus d'identité commune. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un endroit où, quelque part, comme on a besoin d'une identité, on va recréer des sous-groupes constants et qui sont de plus en plus manipulables en tant que tels.
Et du coup, on s'éloigne des lois universelles qui structurent le compte. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la salle. Redis-moi ton prénom.
Hélène
qui prend la parole. Mais moi, je fais pour ceux qui sont derrière leur écran. Oui.
Oui.
C'est que l'espace que je pourrais éventuellement apprendre, en pratique, je m'interroge dans la réflexion, ça n'a l'air pas évident à poser, parce que, il me semble, ce que j'ai pu comprendre pour l'instant du fond, c'est que ce qui était puissant pour moi dans le fond, c'est justement la question qui est posée sans forcément une réponse. La réponse, elle est dans la manière dont on pose la question, dans les différentes manières dont on les pose, et l'espace de médiation, il faudrait justement faire attention, parce que dans un monde où on est plus dans, on va dire, dans une envie de faire du commun, mais plutôt de s'enfermer dans une identité, il peut y avoir une bataille, savoir où trouve la vérité, et de plus. Sur quelque chose qui dirait qu'on va chacun sa vérité, pourrait affaiblir peut-être cette question qui, disons, la force de la question, c'est qu'elle reste commune, même si on s'approche chacun à sa vérité. En tout cas, voilà.
Alors, attends. L'intervention là vient sur l'espace de médiation qui doit être appréhendé, lui aussi, avec finalement une connaissance de la matière et des interventions pour pas que ça bascule dans une sorte de débat argumentatif et de revenir sur du social. Quoi.
Non.
Voilà. La question, est-ce que c'est toujours le travail du compteur ?
Je pense que la règle qu'il faut garder, c'est que ces comptes-là n'ont pas de vérité. Moi, je me suis intéressé au conte merveilleux parce que j'ai une anecdote avec mon grand-père. Le jour, il allait faire ma première communion et il m'a regardé partir. Il m'a dit, tu vas où ? J'ai dit, je vais faire ma retraite avant la communion. Hein. Voilà. Et lui, il avait fait la guerre de 14. Donc, il savait que j'avais 3 km à faire. Il m'a dit, pendant que tu marches, tu réfléchiras combien la vérité a fait de mort. Hein ? Je peux vous dire que ça m'a travaillé tout le temps. Cette notion de... Donc, quelque part, je crois que le conte, pour moi, il est intéressant à condition qu'il reste une question. Voilà. Mais cette question, elle a besoin d'être accompagnée. Alors, moi, je crois que dans le rôle qui se joue actuellement, les conteurs en spectacle diffusent les questions. Quand ils ne font pas uniquement miroiter leur ego, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Mais quand la question est bien posée, après, il faut aider un autre relais. C'est-à-dire que pour moi, c'est les parents, les grands-parents, les copains, peu importe. Mais le gros problème, c'est que la tradition n'existe plus et que les parents n'ont plus de compétences dans ce domaine-là. Donc, il y a eu des tentatives réussies pour la plupart, mais malheureusement avec des personnes qui ne sont plus là. Et Fiona MacLeod, par exemple, avait créé une école où il fallait que les enfants viennent avec un parent ou un grand-parent. De manière à ce qu'il y ait vraiment une compétence qui se recrée de la narration ensemble. Voilà. Moi, je pense
que
là,
vivant, là, Carole Geoffrin, par exemple, fait ça aussi.
Oui, mais je pense que ça se multiplie. Mais je crois qu'il y a réinstallé une compétence et un plaisir, surtout de l'échange narratif, qui n'existe plus. Quoi. Hein, aujourd'hui, on a de plus en plus de paroles pragmatiques, factuelles. N'oublie pas ton portable, fais attention. Mais quelque part, on sait qu'on partage vraiment une parole symbolique, une parole qui dégage. Des éléments et des questionnements. Hein, voilà. Donc, je crois que oui, moi, je dirais que c'est presque un élément du social. Il y a presque un enjeu sociétal derrière ça, hein, en tant que tel.
Quand on est face à ce qu'il y a, il y a une narration, il y a quand même une narration qui est très forte, qui n'est pas du tout dans le même registre que du monde. C'est la narration des réseaux sociaux, c'est la narration des présidents, par exemple, dans lesquels.
Oui, Oui, oui. Mais pour moi, il manque une dimension, c'est la dimension du contact.
Il était question de la narration des réseaux sociaux.
On pourra en reparler éventuellement, mais je pense quelque part, une communauté d'écoute en présence et une communauté d'écoute par n'importe quel média, même de très grande qualité, il ne se passe pas la même chose. Hein, ça, c'est clair.
Oui, moi, je voulais juste préciser par rapport à la réaction, par rapport à ce que je disais sur l'espace de parole, je voyais plus justement qu'est-ce que le conte, qu'est-ce qui questionne, tout ce que nous, conteurs, on sait sur le conte, qui justement n'est absolument plus connu, où les gens ont mis des catégories justement archaïques, patriarcales et autres, plus que sur le conte lui-même, qui là... Je suis tout à fait d'accord, les questions sont en réponse et doivent nous travailler d'intérieur. Mais simplement, moi, le nombre de conversations, justement, souvent que j'ai avec les gens qui ne connaissent rien, mais du tout, qui ont des images collées sur qu'est-ce que je compte, c'est terrible. Et juste en discuter, ça, c'est bien de pouvoir le redire. Et
Mathilde intervient. Ouais. Mathilde intervient pour dire que cet espace. De communication de parole sert notamment à donner des connaissances sur les comptes
plus que
l'analyse, mais parce que les gens, nous là on est entre spécialistes, on sait de quoi on parle, mais dès qu'on sort de ce petit cercle, forcément les gens n'ont que les clichés extérieurs.
Je dirais même qu'il y a, un problème au niveau même, je dirais, éducation nationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aborde le conte uniquement en tant qu'objet littéraire, pas en tant que conte. Hein, donc là, il y a un malentendu.
Il y a quelque part, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, si elle peut l'éteindre. Michel, peut-être. Michel, essaye de... Oui, parce que... Oui, excuse-moi, parce que... Merci. Oui. Tu voulais intervenir, sinon.
Tout à l'heure, Marc a dit que tu avais des temps, mais tu as une question inattendue. Tout à l'heure, c'est vrai que c'est le propre de la psychanalyse de se questionner, pas forcément pour trouver des réponses, mais pour ça, pour comprendre. Et voilà, voir en nous le concept de vie.
Pas de la même façon. Non, je pense que si on veut comprendre quelque chose au conte, il faut déjà penser qu'il y a une des premières révolutions avant la révolution féministe, c'est la révolution des modes de pensée. Le conte était avant tout rural, et dans le rural, on a une pensée qui est plutôt analogique.
Tu es là ? Je voudrais. Voilà.
Donc, ça veut dire que quelque part, les gens partageaient, moi pour avoir collecté souvent dans les campagnes, les gens partageaient leur expérience. Pas les réflexions, l'expérience. L'expérience sollicitait la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quelque part, on partait toujours d'une expérience. Et aujourd'hui, on est dans une pensée analytique à quasi 80% dans l'enseignement, partout. On est toujours en train d'analyser les propos. Et l'expérience, elle est de plus en plus faible au niveau de l'échange. Et ça, les contes ne sont pas basés sur la pensée. Ce n'est pas sur la pensée que ça se joue. C'est vraiment sur des échanges d'expériences émotionnelles. Ce sont des chaînes émotionnelles qui sont en jeu. Donc, si on les prend uniquement au niveau de l'expérience, moi, je ne vous cache pas que l'anecdote, du coup, dans l'analyse, elle n'est pas très intéressante. On peut l'analyser après dans ce que ça provoque, mais l'anecdote en elle-même, elle n'est pas... Il y a mieux que ça. On va avoir des décalages de techniques à faire.
Ambre, tu proposais une...
Oui, on va peut-être faire une pause comme ça. En plus, je vais téléphoner aux deux personnes.
Alors, pause. Là, il est déjà 11h quasi et demi, donc on reprend dans... C'est quart d'heure, 20 minutes.
Ouais.
Le temps de se rencontrer, discuter un peu.
Et puis là, on laissera la parole.
On m'avait dit que ça.